Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Entre-temps, le médecin légiste rend son rapport. La victime est morte d'hémorragie. Elle a reçu 31 coups de couteau. Les 8 trous sur son écharpe correspondent à certains d'entre eux. La plus importante blessure se situe sur le côté latéral du cou. L'absence de traces sur la scène de crime s'explique par le fait que l'épanchement sanguin s'est fait à l'intérieur du corps. Le reste a été absorbé par les vêtements. La seule tache de sang au sol a découlé du mouvement du corps dans le cadre de la constatation. Un écoulement s'est produit par une plaie du cou et la bouche. La lésion la plus importante est un hémothorax postérieur, une accumulation de sang entre le poumon et la paroi thoracique. Cela prouve qu'un coup violent avec une arme blanche a été porté par l'arrière au niveau du thorax. Grâce à ces découvertes, l'expert fournit une analyse des faits. La victime a subi une agression par un homme muni d'une seule arme, coupante et tranchante, une lame d'environ 12 cm de longueur. Le premier coup mortel a dû être donné pendant que l'agresseur tenait le lacet serré autour du cou. La victime a dû être laissée vivante et agonisante. Suite à cela, le docteur Guillemin établit une hypothèse du déroulement de l'agression. D'abord, Christelle se fait agresser de face. Elle se défend avec ses mains et ses bras. Ensuite, son agresseur la maîtrise en lui passant un lacet autour du cou et la frappe par derrière. Manquant d'air, fatiguée et gravement blessée par les premiers coups, Christelle s'écroule. L'agresseur lui assène les derniers coups de couteau alors qu'elle est allongée sur le sol, agonisante. Le tout n'a pu durer que quelques minutes. Les blessures ne sont pas très hémorragiques, il n'y a aucune plaie viscérale ou touchant un gros vaisseau, comme l'artère fémorale ou la carotide. En phase d'agonie, Christelle a relâché ses urines, également absorbées par son pantalon, son pull et son manteau. Le bas du pantalon n'étant pas souillé, elle était forcément déjà allongée lorsque cela s'est produit. Les tests effectués n'ont montré aucune trace de rapport sexuel, Christelle n'a donc pas été violée. Les analyses sanguines montrent qu'elle n'a pas ingurgité ni reçu de drogue ou de médicaments. Agressée par un homme avec un couteau, pas violée, pas droguée, voilà qui est maigre pour la police. Les enquêteurs en déduisent que Christelle a peut-être voulu fuir un prétendant trop pressant. David Caïté fait partie des suspects. Âgé de 15 ans, il fréquente le même collège qu'elle. Selon plusieurs amis de la jeune femme, David lui aurait fait des avances auxquelles elle n'a pas donné suite. Correspondant au profil, il est arrêté par la police et conduit en salle d'interrogatoire. Là, on lui signifie sa garde à vue. Face aux policiers, le garçon est désarçonné. Il aimait beaucoup Christelle, il la trouvait jolie, gentille. Il ne lui souhaitait que du bien. Il admet qu'il voulait lui parler le matin du meurtre et qu'il l'a attendu sur le chemin du collège, comme il le faisait souvent. Mais ce matin-là, Christelle a été déposée par sa mère en voiture, alors David l'a manqué. Le jeune homme se fait secouer par les agents qui veulent le faire parler. Ils le savent voleur et bagarreur. Et de là à le soupçonner pour de bon, il n'y a qu'un pas. Les questions pleuvent, les affirmations s'enchaînent, les cris, les poings abattus sur la table, les coups sur le mur, les affirmations, les photos du cadavre. Non, c'est pas moi, je voulais sortir avec elle, mais son copain est venu me trouver un week-end et m'a fait comprendre que je ne devais plus rien tenter. Du coup, tu t'es vengé. Tu l'as pas vu le matin, alors t'es revenu le midi. Tu l'as tué. Tu la voulais, elle t'a repoussé, alors tu l'as planté. C'est ça ? David pleure, se tient prostré. Allez, à vous. Nouveau coup de poing sur la table. Oui, c'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Là, tout s'arrête. On le reconduit en cellule. David pleure encore. Il est hébété. Mais très vite, la police se rend compte qu'il n'a pas pu tuer Christelle. David Caïété, lui qui séchait régulièrement le collège, a eu la bonne idée d'être présent en cours de dessin au moment du meurtre. Il n'en est sorti qu'à midi. Cela est attesté par ses professeurs et camarades. David est blanchi, l'enquête reprend, sans suspect. Toussaint Podjalé pensait recevoir de nombreuses visites suite à l'appel à témoins. Malheureusement, personne ne s'est présenté. Il faut attendre le 30 décembre, soit presque 2 semaines après le meurtre, pour qu'un individu se fasse connaître. Il s'agit d'Alain Horvat, 30 ans, auxiliaire au télécom. Il est facteur, on vient de lui confier une nouvelle tournée. Ce n'est qu'en fin de semaine qu'il apprend qu'un meurtre a eu lieu au Creusot et que le crime se situe sur sa tournée. Il lui faut encore quelques jours pour se souvenir que sur le boulevard Foch, celui sur lequel débouche la cité, il a vu arriver une personne au coin de l'immeuble des Capucines, depuis le chemin qui relie le boulevard à l'entrée de l'immeuble. Ce jour-là, Alain transportait une enveloppe contenant une grosse somme d'argent. Voir un homme d'une vingtaine d'années foncer sur lui et le bousculer lui a fait peur. Il n'a malheureusement pas eu le temps de voir son visage car l'homme courait. Alain ne peut décrire que la silhouette qu'il a vue s'éloigner. Un jeune homme relativement grand, environ sa taille, 1m80. Mince, cheveux longs, châtain ou blond. Il était habillé comme les jeunes, un jean bleu, une veste en jean avec un col en peau de mouton. Un style à la Renaud, le chanteur. Il devait être 11h15, 11h20. Cela ne permet cependant pas d'identifier un suspect. Les jours passent et l'enquête piétine. Le sol de la commune du Creusot, couvert de neige depuis fin décembre, commence à réapparaître. Le 4 février 1987, comme chaque jour, Giuseppe Sergi rend visite à sa compagne dans la cité. Elle étant non-fumeuse, l'homme est donc prié de sortir chaque fois qu'il veut allumer une cigarette. Ce jour-là, il en profite pour se dégourdir les jambes. En jetant sa cigarette dans un bosquet, il remarque qu'un couteau y a été abandonné. Giuseppe sait que la police en cherche un suite au meurtre. Alors il le ramasse, le ferme et va tout de suite l'apporter au commissariat. Malgré le froid, Giuseppe ne portait pas de gants. Il précise donc à la police qu'il a touché l'arme. Le bosquet se trouve à 105 mètres de l'entrée de la cave où l'on a retrouvé Christelle. La coïncidence est trop grande. Le couteau est immédiatement mis sous scellé. Avant toute chose, l'arme est confiée au légiste afin de déterminer si elle peut ou non être considérée comme une arme probable du crime. Le docteur Guillemin procède aux constatations suivantes. Ce couteau à cran d'arrêt est usagé, il manque d'entretien. Des traces de rouille marquent la lame, le bout est éméché. La pénétration totale possible de celle-ci est de 10,7 cm sur 17 mm de largeur. Ce couteau n'a pas été affûté, mais meulé. Cela se voit sur les irrégularités du fil d'aiguisage et les traces sur la largeur de la lame. La base de la lame est gravée d'un J, peut-être l'initiale de son propriétaire. Concernant l'arme du crime, la longueur de lame devait avoisiner les 12 cm. Toutes les plaies ont une béance d'au moins 15 cm. En conclusion, il y a une grande convergence entre l'arme présentée et les plaies constatées. Toutefois, le médecin émet des réserves en comparant la lame de très mauvaise qualité du couteau trouvé et les plaies très nettes constatées. À cette époque, les recherches ADN n'en sont qu'à leur prémices aux États-Unis. Et il faut attendre la fin des années 1990 pour en voir l'usage régulier en France. Ce que l'on recherche donc sur l'arme, ce sont des traces de sang. Le docteur Guillemin n'en décèle aucune, pas d'empreinte non plus. Des analyses complémentaires sont demandées. Quelques jours s'écoulent et Toussaint Poggiale en reçoit le rapport. Malheureusement, celles-ci n'ont pas été confiées au laboratoire de la police scientifique à Lyon, mais à une pharmacie de la région de Grenoble. L'experte, Chantal Marca, pharmacobiologiste, s'en est chargée. Différents points ont été étudiés, dont la lame, le manche, la fermeture, la fente de lame et la loge. Bien que les tests soient assez sensibles, le rapport conclut à l'absence de traces de sang. Toujours aucune empreinte, malgré le fait que M. Sergi ait ramassé le couteau avec ses mains nues. Cela n'arrête pas le policier. S'il s'agit bien de l'arme du crime, elle a passé 48 jours dehors, exposée aux intempéries et à la fonte des neiges. Il faut retrouver son propriétaire. Voilà que des photos sont prises et qu'un nouvel appel à témoins est lancé par voie de presse. La mention de la lettre J sur le manche est tenue secrète. Quelqu'un reconnaîtra peut-être cette arme. Ce meurtre a causé une vive émotion dans le quartier. Peut-être encore cette personne dénoncera-t-elle le propriétaire. Les semaines passent, mais rien ne vient. Les mois s'écoulent et les traces s'effacent. En janvier 1987, une carte postale parvient à la police. Elle a été envoyée directement au commissaire Daniel Guichot, chef du groupe chargé de l'enquête. « Monsieur Guichot, j'habite Nevers et je suis l'assassin de Christelle », signe l'auteur. En mars, une nouvelle carte arrive. Cette fois, l'auteur signe carrément « L'assassin de Christelle vous salue bien ». Au dos se trouvent les paysages bucoliques de la région nivernaise. Les enquêteurs se méfient, évidemment. Les corbeaux sont monnaie courante dans ce genre d'affaires, mais comme ils n'ont rien, les policiers dressent une liste de toutes les personnes susceptibles de circuler régulièrement entre le Creusot et Nevers. Toutes sont convoquées et soumises à la dictée afin que leur écriture soit comparée à celle des cartes par la brigade criminelle. Le 30 septembre 1987, un marginal, Jean-Luc Loiseau, est entendu après qu'on l'a vu descendre d'un véhicule immatriculé 58, la Nièvre. Quelques heures de garde à vue plus tard, assurant qu'il n'est pour rien dans l'affaire, il est relâché. Jean-Paul Gauthier, graphologue, expert auprès de la Cour d'appel de Lyon, est mandaté. Selon son appréciation, l'auteur fait apparaître une écriture confuse, mouvementée, avec une pression spasmodique, des traits acérés. Une écriture compliquée. Ce tracé révèle une nature nerveuse, irritable. Le prescripteur est en proie à des accès de violence. Il y a des signes de dissimulation dans cette écriture, des lettres mal formées, des tournures non habituelles. Le 14 mars 1988, une nouvelle juge d'instruction est nommée. Elle organise un transport sur les lieux. Malheureusement, cela ne donne rien de concluant. Fin octobre 1989, la SRPJ reçoit une lettre d'un certain Raoul Abril s'accusant d'être l'auteur du crime. La juge délivre une commission rogatoire, des vérifications sont faites, il s'agirait d'un déséquilibré. La procédure est clôturée le 21 novembre. Plus aucun acte de procédure ne suit. La juge ordonne un non-lieu en février 1990. Les pièces à conviction sont archivées, le couteau, les cartes postales, les vêtements et effets personnels de Christelle. Seuls ses bijoux, qui lui ont été retirés au moment de l'autopsie, sont restitués dans une enveloppe adressée à Marie Pichon. Le pli contient une boucle d'oreille, une bague serpent, une montre Casio à l'affichage quartz, un classique à l'époque. Il y a aussi un courrier qui mentionne l'abandon de l'enquête, l'arrêt des poursuites, la fin de l'espoir d'obtenir des réponses. Pour Marie, c'est comme si l'on tuait sa fille une nouvelle fois. C'est intolérable, inacceptable. Elle tente de contacter la PJ, qui la rembarre, aussi bien par téléphone que depuis l'accueil lorsqu'elle s'y déplace. La réponse est sans appel, ils ne peuvent plus rien faire, tout a été exploré.